Il y a 3 semaines ou 4 semaines, je crois, j'avais apporté un enseignement sur la cessation des dons, vous vous rappelez. Et ça avait généré quand même pas mal de discussions sur ma page Facebook. Donc la cessation des révélations partielles, entre autres les prophéties, le parler en langue et les choses semblables. Et dans cette même foulée, je voudrais du parler en langue. Alors, comme je suis un réformé baptiste, je ne parle pas en langue. Ce n'est pas un don qu'ont reçu les réformés baptistes. Mais il semble nécessaire pour tout chrétien, même ceux qui ne pratiquent pas ce qu'on pourrait appeler la glossolalie, de comprendre c'est quoi ce phénomène, de comprendre quel était le sens du parler en langue, parce que l'Écriture nous en parle à plusieurs reprises quand même. Et on pourrait avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose, parce que ici, ce n'est pas pratiqué, et puis même, on enseigne très peu souvent là-dessus. Avez-vous déjà reçu un enseignement sur le parler en langue dans votre souvenir? Ce n'est pas quelque chose qui est hyper fréquent. Daniel Durand avait déjà apporté effectivement un enseignement. Alors, je ne vais pas parler d'écrire ce que c'est que le parler en langue ou m'attarder aux différentes idées, que ce soit la xénolalie, l'idée de parler des langues étrangères, ou la glossolalie, un langage inconnu, la langue des anges. Je vais plutôt m'attarder à ce que signifiait le parler en langue. Et j'en parle au passé parce que je pense que c'est un phénomène qui a disparu aujourd'hui, le parler en langue tel qu'il était présent dans les Écritures. Et je pense que ça a disparu parce que, comme Paul l'avait prédit dans 1 Corinthiens 13 au verset 8, lorsqu'il dit « les langues cesseront ». Alors, comme on a vu la dernière fois, Paul parlait d'un événement beaucoup plus imminent à son époque que lointain. Donc, il parlait de quelque chose qui devait se produire, et qui s'est produit même dans le premier siècle. Les langues ont cessé. Connaissez-vous des gens qui parlent en langue? Parlez-vous en langue?
Non.
Non, vous ne parlez pas anglais? De toute façon, beaucoup de gens qui parlent en langue ne comprennent pas non plus ce qu'eux-mêmes disent. Hein. Et étrangement, parmi ceux, et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes qui parlent en langue et d'en entendre aussi dans une assemblée plus charismatique, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui croyait ou qui pratiquait le parler en langue qui était capable de m'expliquer cohéremment l'enseignement de l'apôtre Paul sur le parler en langue. Et on retrouve donc dans les milieux où on l'exerce beaucoup de gens qui le pratiquent sans comprendre c'est quoi le but et sans comprendre sa signification eschatologique. Le mot eschatologique vient du grec eschatos qui veut dire dernier. Donc les choses dernières, les choses qui devaient s'accomplir vers la fin des temps. Et l'eschatologie a commencé lorsque Christ est venu et qu'il a accompli les promesses, et on est entré dans les derniers jours, c'est la dernière phase. Et les langues avaient un but précis avec l'accomplissement des promesses eschatologiques de Dieu. Et c'est malheureux parce que Paul, alors qu'il l'expose au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, ce que sont les langues et qu'il explique, il l'introduit au verset 20, 1 Corinthiens 14, 20, son sujet en mettant en garde ses lecteurs contre ce genre d'ignorance. Il leur dit qu'ils doivent avoir du jugement et qu'ils doivent comprendre ce que signifie les langues, ce phénomène qui se produisait dans l'Église primitive. Alors, il dit, c'est pas juste de parler en langue, puis tout le monde parle en langue, mais il dit, ayez du discernement, ayez du jugement, comprenez ce qui se passe. Et là, il leur explique. Et donc, les trois versets qui suivent le verset 20 expliquent, en fait, ils sont la clé pour comprendre le parler en langue. Alors, les trois versets nous disent trois choses. Premièrement, le verset 21 nous dit que les langues étaient un signe prophétisé par Ésaïe. Au verset 21, l'apôtre écrit « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. » Alors, Paul présente ce que signifient les langues, il vient de dire « Vous devez comprendre, servez-vous de votre intelligence et comprenez. » Et il introduit son explication des langues par cette citation d'Ésaïe, qui vient du chapitre 28 du livre d'Ésaïe, verset 11 particulièrement. Mais le passage plus spécifique va jusqu'au verset 13 dans Ésaïe 28. Et ce qu'on retrouve dans ce passage, c'est que le prophète Ésaïe avait annoncé que Dieu parlerait à Israël et lui annoncerait la paix par la bouche d'étrangers et en d'autres langues. Et c'est exactement ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, dans le livre des Actes, au chapitre 2. Je vais vous lire les versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ?» Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » L'Évangile fut prêché à la nation juive, au jour de la Pentecôte, en toutes sortes de langues, telles que le prophète Ésaïe l'avait annoncé. C'est ce qu'on voit, un accomplissement exact de la prophétie. Et ce phénomène n'a pas duré seulement le jour de la Pentecôte, mais semble avoir duré un certain laps de temps, on pourrait dire plusieurs années, pendant l'époque de l'Église primitive, l'Église apostolique, l'Église qui était implantée par les apôtres et qui était dans une phase charnière, la phase d'implantation dans le monde. Et On le sait que les langues ont continué parce qu'on le voit dans l'Épître aux Corinthiens. La deuxième chose que Paul nous apprend au verset 22, c'est que les langues sont un signe pour les non-croyants. Alors, premièrement, elles sont un signe prophétisé par Ésaïe. Deuxièmement, c'est un signe en vue de certaines personnes précises, les non-croyants. Il dit au verset 22, « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les croyants, pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alors, les langues, telles qu'on vient de le lire, étaient un signe pour les non-croyants, mais pas n'importe quel non-croyant. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à qui? À ce peuple, à Israël, à la nation juive qui attendait l'accomplissement des promesses de Dieu. Et Dieu dit, quand je vais accomplir mes promesses, je vais leur annoncer, je vais leur parler par des langues étrangères. À ce peuple, à Israël. Si vous lisez au verset 21. C'est-à-dire donc aux Juifs. Alors, les langues étaient un signe des temps, un signe que Dieu venait d'accomplir son évangile tel qu'il l'avait promis. On peut voir dans le reste du chapitre, au chapitre 2, si vous avez gardé la page ouverte, acte 2, versets 15 à 21, Pierre va répondre à ceux qui disent « sont pleins de vin doux » et ainsi de suite, et il leur dit « Non, non, vous n'y êtes pas du tout », verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour ». Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, Pierre prend ces paroles prophétiques de Joël, qui sont vraiment des images très, très fortes de bouleversement cosmologique et en même temps de quelque chose de surnaturel qui se produit sur l'ensemble du peuple de Dieu. Et il dit... Ces signes-là, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de ce que Joël a annoncé, qui inaugure la nouvelle alliance, qui inaugure l'Évangile, parce que maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, si on veut, c'est le début de manière ou le début de l'Évangile, mais à l'intérieur de la communauté d'Israël, et ça se produit par Dieu qui répand son esprit. Et alors, ce phénomène-là, des langues à la Pentecôte, était un signe des temps, un signe que Dieu venait d'accomplir son évangile tel que promis. Et par les langues, maintenant, Dieu s'adressait à la nation d'Israël et lui annonçait les merveilles. Quelles sont les merveilles en question? Parce qu'il dit, nous les entendons parler des merveilles de Dieu dans nos propres langues maternelles. Eh bien, il lui annonçait l'Évangile, et dans l'événement de la Pentecôte, ce qu'on voit, c'est que Dieu renverse ce qu'il avait fait à Babel. Dans Genèse 11, les versets 1 à 9, où ça nous dit que tous les habitants de la terre parlaient la même langue, et qu'ils ont comme voulu s'unir contre Dieu en protestation, élever une tour orgueilleuse contre le ciel. Et Dieu a confondu leur langage et a répandu les hommes sur la face de la terre. Et on voit que l'anti-Babel, c'est la Pentecôte où Dieu renverse finalement le projet de l'homme et ramène l'humanité en un seul corps, ramène des gens de toute langue, de tout peuple, de toute nation pour former une seule nation et parler une seule langue, et c'est par l'Évangile qu'il fait ça. Alors, c'est déjà un signe de l'unité, de l'humanité qui est retrouvée par cet évangile. Et c'est ces merveilles-là qu'on voit et que Dieu annonce à Israël au jour de la Pentecôte et par les langues qui sont un signe pour la nation d'Israël. La nature d'un signe, c'est de signifier quelque chose. Paul nous dit que les langues sont un signe. C'est pas juste quelque chose qui peut nous édifier ou qui produise un effet chez celui qui parle en langue, ça avait une valeur de signe. Ça signifiait quelque chose. Et il nous dit pour qui? Pour les non-croyants. Et plus précisément, les non-croyants dans le peuple juif à cette époque-là, pour l'Israël. Que signifiaient les langues pour les non-croyants dont il est question? Paul répond à cette question dans le verset qui suit, verset 23. Les langues, troisièmement, sont un signe de jugement. Et c'est le verset 23 qui nous permet de tout relier ensemble. Il dit, « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, c'est un signe pour eux, ne diront-ils pas que vous êtes fous? » Est-ce que Paul se contredit? Le verset qui précède, il affirme sur la base de la prophétie d'Ésaïe que les langues allaient être un signe pour les non-croyants. Et puis maintenant, dans le verset 23, il nous dit que si des non-croyants entrent dans l'assemblée où il y a du parler en langue, il va dire « Vous êtes fous! » Eh bien, c'était ça le signe. C'est comme ça que s'accomplit le signe pour Israël. Car, la prophétie d'Israël, Dieu, la prophétie d'Ésaïe, Dieu dit, « Ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Dieu va parler à son peuple, mais ils ne m'écouteront pas. Et comment ça va se manifester qu'ils ne m'écouteront pas? Ils vont dire, c'est des fous. Il s'agissait d'un signe non pas pour leur salut, mais un signe de leur jugement. Quelle a été la réaction des Juifs non-croyants lorsqu'ils ont entendu les chrétiens parler en langue au jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Acte 2, verset 13. « Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. » Et c'est exactement ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 23. C'est un signe pour les non-croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous, comme ils ont dit à la Pentecôte? Les langues ont trouvé leur accomplissement dans cet événement qui était un signe de jugement. Israël n'a pas écouté Dieu, même lorsque Dieu lui a parlé de cette manière et qu'il lui a annoncé la bonne nouvelle de cette manière. En disant « ils sont fous » ou en disant « ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux », alors que les chrétiens annonçaient les merveilles de Dieu. Ils n'étaient pas en train de dire des grossièretés, des stupidités comme on peut entendre des gens ivres dire, mais ils disaient des merveilles de Dieu et eux, leur compréhension de ça, c'était « ils sont fous, ce sont des gens qui sont ivres ». Et c'est un jugement de Dieu sur ce peuple qui s'est endurci. L'endurcissement et l'aveuglement d'Israël fut révélé à la Pentecôte et fut mis en évidence par les langues. Le même endurcissement dont ils ont fait montre lorsque la parole faite chair les a visités. Qu'est-ce que Jean nous dit? La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient endurcis. Le même aveuglement déclaré par Jésus lorsqu'il ne comprirent pas son enseignement. On lit dans Matthieu 13, si vous voulez tourner, versets 14 et 15. Jésus enseigne en parabole. Les gens ne comprennent pas. Les disciples l'interrogent. « Pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Le peuple ne te comprend pas. » Et Jésus dit « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Le cœur de ce peuple était endurci. Et lorsque Dieu parla à Israël par le Fils, c'est comme ça que l'Épître aux Hébreux commence, « En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils est venu. » Et que Dieu a fait par le Fils des prodiges devant eux, qui attestaient son origine, qui montraient que l'accomplissement de la parole de Dieu se trouvait en lui. Les non-croyants dirent, « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Luc 11, verset 15. Et lorsque Dieu leur parla par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers, les non-croyants dirent, ils sont fous. C'était l'évangile que Dieu leur annonçait, mais ils ont dit, ils sont fous, exactement ce que Paul nous dit. au début de son épître aux Corinthiens, que cet évangile est une folie pour ceux qui périssent. C'est un scandale pour les Juifs. En rejetant chaque manifestation de la grâce de Dieu et en niant les preuves de l'accomplissement des Écritures, Israël courait vers la destruction. C'est un signe de jugement. Jésus lui-même a annoncé plus précisément ce jugement lorsqu'il entre à Jérusalem et qu'il pleure sur elle. Il dit dans Luc 19, 44 à 42, 43, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Et il nous dit la raison. « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Parce qu'Israël s'est endurci lorsqu'il n'a pas reconnu le Christ, lorsqu'il a appelé le Christ, le prince de Béelzébul, lorsqu'il a entendu l'Évangile et qu'il a dit « c'est de la folie », le jugement s'en venait. Et le jugement est venu, c'est exactement ce qui est arrivé. Et les langues étaient un signe annonciateur de ce jugement qui a eu lieu en l'an 70 et qui a mis définitivement fin à l'ancienne alliance entre Dieu et Israël. Il faut réellement voir 70 comme un événement eschatologique. C'est la fin de l'ancienne alliance. Ce n'est pas juste un événement dans l'ère chrétienne qui hors de la révélation et qui concerne juste l'histoire séculière avec des liens avec l'Église. C'est un événement qui est prédit dans l'Écriture par le Christ lui-même et qui a un sens théologique, celui de mettre fin définitivement à l'Ancienne Alliance. C'est la malédiction qui tombe sur Israël. Et c'est pour ça que toute la phase entre le déclin de l'Ancienne Alliance et l'établissement de la Nouvelle Alliance est une phase charnière dans laquelle Paul dit « lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel cessera », c'était la phase de l'ère apostolique qui consistait à implanter l'Église, à mettre en lumière l'Évangile et tout le reste de la révélation. Et lorsque ça fut terminé, eh bien ce qui était partiel a disparu et ce qui était temporaire, l'Ancienne Alliance, a pris fin. Alors finalement, les langues sont un signe révolu. On a dit quatre choses sur les langues. C'est un signe qui était prophétisé par le prophète Ésaïe. C'était un signe pour les non-croyants. C'était un signe de jugement. Et c'est un signe révolu. Comme le signe était pour la nation juive dans le contexte de l'accomplissement eschatologique des promesses de Dieu par l'Évangile de Jésus-Christ, bien, il ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. En fait, dès l'an 70, les langues sont devenues un signe désuet. Et c'est pour ça qu'elles ont cessé. Les langues ont disparu dans la première génération de l'Église chrétienne, dans l'Église primitive. Et on ne les a pas revus dans toute l'histoire de l'Église. Vous savez, quand est-ce qu'on a revu un phénomène semblable? Au début de ce siècle, au début du 20e siècle, vers 1906, où il y a eu un réveil, ce qu'on appelait le réveil d'Azusa Street. C'était une rue à Los Angeles, en Californie, où un prédicateur et donc une église a commencé à chercher intensément à expérimenter le parler en langue. On disait que c'était encore possible de vivre cette extase, de vivre cette expérience, et on s'est mis à rechercher jusqu'à ce qu'on atteigne quelque chose de semblable. Et tout le mouvement de Pentecôte est né de là. Tout ce que vous... La racine historique du phénomène du parler en langue contemporain vient d'Azusa Street. Et qu'en est-il? Est-ce que c'est le même parler en langue qu'on retrouvait au temps des apôtres? Est-ce que c'est la même chose? Personnellement, je vous donne mon avis. Je ne pense pas que ce soit le même parler en langue, pour la raison que Paul nous a dit que ça devait cesser, et que ça devait cesser parce que c'était temporaire, c'était un signe qui avait un but précis, qui était destiné à la nation juive, et qui nous dit aussi quand est-ce qu'il devait cesser. Et on a examiné pourquoi est-ce qu'on croit que ce dont Paul parle quand il dit « quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra » en parlant des langues et des autres choses. On a vu pourquoi est-ce que, à quoi il référait. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une œuvre du Saint-Esprit? Eh bien, selon moi, il s'agit d'un phénomène extatique qu'on appelle la glossolalie Et c'est un phénomène qu'on retrouve en dehors des milieux chrétiens, qu'on peut retrouver chez les Mormons, dans des formes de spiritisme, dans le vaudou. Et le fait qu'on retrouve la même glossolalie qu'on peut voir dans une assemblée évangélique, qu'on la retrouve en dehors de milieux chrétiens, des milieux qui ne confessent pas du tout le nom de Christ, c'est la preuve que ce phénomène-là ne vient pas nécessairement du Saint-Esprit. Alors, et je le dis parce que pour beaucoup de gens, la norme qu'ils ont pour déterminer si le parler en langue est vrai ou faux, c'est qu'ils disent que c'est quelque chose de surnaturel, que ce n'est pas eux vraiment qui font arriver, et c'est leur expérience qui devient la norme. Et l'expérience qu'on fait, même si c'est une expérience extatique qui nous paraît surnaturelle, ne peut pas être la norme. La seule norme qui lie la foi des chrétiens à laquelle notre foi est tenue, c'est l'Écriture seule. Et l'Écriture ne semble pas du tout cautionner ce phénomène moderne de glossolalie. Et comme je dis, c'est quelque chose d'extatique, une espèce de transe que les gens peuvent vivre. Alors, voilà. Alors, c'est à la lumière de l'enseignement de la Bible que nous sommes invités à examiner toutes choses, à s'examiner soi-même, examiner nos expériences.